d'Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. La mobilisation de la classe politique contre l'antisémitisme. Le gouvernement sera largement représenté demain dans le Rassemblement parisien, auquel ne se joindra pas en revanche le parti de Marine Le Pen. La sortie du film « Grâce à Dieu », mercredi, toujours en suspens. Une première décision de justice a débouté le père Prénat, mais une autre est attendue demain. Le procès Air Cocaïne, deux accusés majeurs manquent à l'appel. Les avocats de la défense dénoncent un procès inéquitable et tronqué. Les communes rurales font de l'œil à Airbnb. Puisque les grandes villes ne veulent pas de vous, eh bien, venez chez nous. La maternité de Bernay, dans l'Eure, va bel et bien fermer. La ministre de la Santé pointe des effectifs insuffisants. Les opposants dénoncent une décision économique. Les Lyonnais, prudents mais confiants, à la veille de leur huitième de finale aller de Ligue des Champions demain contre Barcelone, que l'on suivra évidemment en direct sur Europe 1. Demain qui sera la seule journée perturbée de la semaine, côté météo. Retour du ciel bleu, c'est promis pour tout le monde dès mercredi. Et ça ira crescendo jusqu'au week-end. Prévision complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. À 22h20, comme tous les soirs, vous retrouverez l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Franck Bouettard, le directeur général France d'Ericsson. Europe 1. Et on est donc à la veille d'une grande mobilisation contre l'antisémitisme. Le chef du gouvernement et une vingtaine de ministres participeront demain à 14h à Paris au rassemblement organisé Place de la République. Cela fait suite évidemment aux récents débordements, que ce soit les insultes proférées à l'encontre d'Alain Finkielkraut ou encore les tags antisémites. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il ne participerait pas à ce rassemblement. Yasmine Akatou.
Emmanuel Macron ne sera pas présent, il n'y sera pas car ce n'est pas sa place, explique en substance l'Élysée, qui tient à distinguer la démarche partisane du rassemblement de demain de la démarche institutionnelle qui doit être celle du président de la République. C'est donc le lendemain soir, lors du dîner annuel du CRIF, qu'Emmanuel Macron, accompagné de sa femme, aura l'occasion de s'exprimer sur ce climat de regain d'antisémitisme. Pas sa place donc, même si on se souvient que François Mitterrand avait choisi de se mêler à la grande marche transpartisane organisée en 1990 à Paris après la profanation du cimetière juif de Carpentras. Pas de président, mais un gouvernement largement représenté avec Édouard Philippe qui a confirmé sa venue en début de soirée avec au moins une vingtaine de ministres présents, dont Jean-Michel Blanquer, Agnès Buzyn ou encore François de Rugy. À leur côté, évidemment, une très large délégation des élus et responsables de La République En Marche, dont le patron Stanislas Guérini.
Les précisions de Yasmine Akatou seront présents également demain à ce rassemblement. Les représentants des 14 partis qui appellent à se rassembler, Laurent Wauquiez, Olivier Faure, on y verra aussi François Hollande ou encore Bertrand Delanoë. En revanche, le Rassemblement National n'enverra pas de représentants. Cet après-midi, le parti de Marine Le Pen a annoncé qu'il préférait rendre un hommage séparé aux victimes de l'antisémitisme, comme le confirme Gilbert Collard.
Nous condamnons l'antisémitisme de la façon la plus formelle, la plus intellectuelle et la plus physique. Nous n'irons pas à la manifestation organisée par le festival socialiste. Les contestataires pédestres qui, en panne de reconnaissance, essayent de trouver le moyen de faire parler d'eux parce qu'ils n'ont pas le monopole de la lutte contre l'antisémitisme. On organisera une manifestation qui aura lieu vers 17h30 en un endroit que je ne peux pas indiquer pour des raisons de sécurité, mais qui sera connu demain. Et on trouve triste, voilà, on trouve triste que le Parti Socialiste, qui quand même a eu un rôle très important dans l'instauration du communautarisme intégriste, ça a été dénoncé, ça a été répété, que les communistes qui ont joué un rôle aussi, notamment en célébrant quelques terroristes,
ça, c'est une attaque sérieuse.
Soit à l'initiative de cette manifestation.
Gilbert Collard, le député du Rassemblement National, qui était au micro de Sonia Mabrouk, et noté que Marine Le Pen sera, elle, demain l'invitée d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1 à 8h15. Rebondissement ce soir dans les négociations sur l'assurance chômage. Le patronat indique qu'il fera, mercredi, des propositions alternatives au bonus-malus, sujet de blocage avec les syndicats, qui avaient demandé à ce qu'il revoie sa copie. Si la négociation échoue entre les partenaires sociaux, l'État reprendra la main, c'est ce qu'a dit le gouvernement. Grâce à Dieu, le film de François Ozon sur l'affaire Prénat, qui traite de la pédophilie dans l'église, devrait théoriquement sortir sur les écrans mercredi. C'est à mettre encore au conditionnel. Décision du tribunal de Paris qui a rejeté en tout cas la demande des avocats du père Prénat. Ces derniers demandaient le report de cette sortie au nom de la présomption d'innocence. Jean-Luc Boujon, la justice n'a donc pas suivi ces arguments.
Non, le tribunal de Paris a estimé que le film d'Ozon prenait suffisamment de précautions avec ce texte écrit plein écran qui vient rappeler à la toute fin du film que le père Bernard Prenat est présumé innocent dans l'attente de son procès et de son jugement. Cela est suffisant, a estimé le tribunal, qui a donc rejeté le report de la sortie du film, dont les copies ont déjà été envoyées dans 307 salles de cinéma en France. Grande satisfaction donc pour le réalisateur et le producteur du film, mais évidemment déception pour les avocats du père Prenat, qui ont annoncé qu'ils allaient faire appel de cette décision, ce qui n'empêchera pas la sortie du film, car cet appel ne sera pas examiné tout de suite. En revanche, ce qui pourrait encore empêcher cette sortie, c'est une autre décision de justice qui sera rendue demain, mais à Lyon cette fois. Régine Maire, une proche collaboratrice du cardinal Barbarin, a demandé à ce que son nom ne soit pas cité dans le film en vertu du respect de sa vie privée et de son intimité. Son avocat a exigé que la bande-son soit entièrement refaite avec un nom d'emprunt. Et si la justice lui donne raison demain, bien cela veut dire qu'il faut reprendre tout l'habillage sonore, ce qui peut prendre au moins 3 semaines, et donc ce qui conduirait à repousser de facto la sortie du film. Ce sont donc les juges lyonnais qui vont décider demain à 17h du sort de Grâce à Dieu.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon, et notez que François Ozon sera l'invité de Nico Saliagas demain matin sur Europe 1 à 7h45. Une deuxième plainte déposée contre l'ambassadeur du Vatican à Paris. Un nouveau témoignage pour des faits qui, eux aussi, se seraient déroulés lors de la cérémonie des vœux à l'hôtel de ville. Plainte déposée par un homme de 39 ans qui raconte une main aux fesses très appuyée de la part du nonce apostolique, Monseigneur Luigi Ventura, qui n'a pas encore été entendu car il bénéficie de l'immunité diplomatique. Et puis notez que la plainte pour viol qui visait le comédien Philippe Cobert, cette plainte a été classée sans suite par le parquet.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h07, c'est la suite de votre journal et l'affaire de ce convoyeur de fonds qui avait dérobé un fourgon en région parisienne avant d'être interpellé à Amiens. Près de 2 millions d'euros sont toujours dans la nature. Ce soir, un complice du convoyeur s'est rendu à la police. 62 000 pièces à conviction. C'est une affaire hors norme qui est jugée depuis ce matin à Aix-en-Provence, celle d'Air Cocaïne, affaire rocambolesque, près de 700 kilos de drogue saisie en 2013 en République dominicaine sur le tarmac de l'aéroport de Punta Cana à bord d'un Falcon à destination de Saint-Tropez. 9 personnes sont jugées, dont les 2 pilotes, mais 2 sont absentes, 2 passagers qui n'assistent pas à ce procès qui pourrait être interrompu à tout moment, Stéphane Frangy.
Oui, puisque des avocats de la défense ont demandé de renvoyer le procès en raison de ses absences. L'un de ces 2 acteurs clés, Alain Castagny, qui est présenté comme l'apporteur d'affaires, le courtier de ce vol, est gravement blessé à une jambe et il n'est pas en état pour assister à ces audiences. L'autre, le client VIP du vol, Nicolas Pisapia, est toujours sous contrôle judiciaire en République dominicaine où il attend un jugement définitif en cassation. Et ils doivent être tous les 2 jugés à part ultérieurement. Mais c'est ce qui pose problème pour la bonne tenue de ce procès hors norme que le conseil d'un des accusés présents n'hésite pas à qualifier d'avion sans aile, sans possibilité de confrontation, impossible d'examiner le dossier dans les conditions équitables. Voilà ce qui a été plaidé tout à l'heure, argument entendu quelque part par la cour qui coupe la poire en deux et sursoit à statuer, c'est-à-dire que l'instruction continue, témoins et accusés seront bien appelés à la barre, mais la cour se réserve en effet le droit de reporter le procès si d'aventure l'absence des 2 passagers devenait préjudiciable à l'équilibre des débats.
Stéphane Frangy à Aix-en-Provence pour Europe 1. C'est un rapport très attendu. La commission d'enquête sénatoriale rendra après-demain, mercredi, ses conclusions sur l'affaire Benalla. La ministre de la Santé a été fraîchement accueillie ce matin à Bernay, dans l'Eure, où elle a confirmé la fin annoncée de la maternité. Agnès Buzyn justifie cette annonce par le manque de personnel.
Ce n'est pas une fermeture, il n'y aura plus l'acte d'accouchement, ça dure 2 jours. Il y aura tout le suivi de grossesse. Beaucoup de maternités aujourd'hui se sont déjà transformées en centres de périnatalité avec absolument pas d'anxiété sur les transports puisque les transports sont anticipés. On programme également des hôtels hospitaliers pour recevoir les femmes 1 ou 2 jours avant l'accouchement. C'est de la restructuration aujourd'hui de l'offre de soins pour apporter à nos concitoyens dans tous les territoires la même qualité de médecine, la même qualité de suivi que s'ils étaient dans un grand centre hospitalier. C'est mon ambition aujourd'hui pour la médecine française.
Des arguments de la ministre de la Santé dont ne veulent pas entendre parler les habitants qui se battent pour le maintien de cette maternité. C'est toute la vie de la commune qui est menacée, d'après Marie-Pierre, venue manifester ce matin.
Nous ne sommes plus des êtres humains en France. On pense à nos enfants, à l'économie de la ville aussi. Et les communes adjacentes, les crèches ont fermé, les écoles ont fermé, ça va être une ville morte quoi. Une ville déambulatoire. Ah, y a des jeunes qui m'ont dit, nous on ne construit pas à Bernay, on n'achète pas à Bernay parce que la maternité va fermer, l'hôpital va partir. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Je suis en colère par ce qui se passe, on prend les gens pour des imbéciles.
Des propos recueillis pour Europe 1 par Hélène Terzian. Un recours contre cette décision doit bientôt être examiné devant la justice administrative. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. Et quand les maires ruraux se distinguent des grandes villes et accueillent Airbnb à bras ouverts. À tout de suite.
Europe 1.
Un enfant qui naît aujourd'hui a de grandes chances de vivre plus de 100 ans. Alors oui, il va vivre vieux, mais est-ce qu'il va vivre mieux ?
C'est pourquoi nous avons créé Aesio, avec la conviction qu'une mutuelle doit aussi vous aider à vivre mieux et que la meilleure façon d'y arriver, c'est de le faire ensemble. Groupe Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.
Groupe Aesio, 25 Place de la Madeleine, Paris 8e. Orias numéro 160 069 68, aesio.fr.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h11. Vous connaissez forcément Airbnb, le géant américain de la location d'appartements ou de maisons, qui, vous le savez, n'est plus le bienvenu dans les grandes villes, à Paris notamment, mais aussi à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, qui dénonce une concurrence déloyale pour les hôteliers. Eh bien, figurez-vous qu'Airbnb est accueilli au contraire à bras ouverts dans les petites communes. L'Association des maires ruraux de France vient d'ailleurs de signer un accord avec la plateforme et son directeur Cédric Zabot s'en est expliqué ce soir sur Europe 1.
20 000 communes de moins de 2 000 habitants n'ont pas d'hôtel. Qu'est-il de commun entre ces communes-là et la ville de Paris ? Un potentiel d'attractivité. Il n'est pas le même, certes. Il n'y a pas d'offre hôtelière, certes. Mais il y a d'autres pratiques. Et aujourd'hui, 60% des Franciliens veulent s'installer à la campagne. Donc beaucoup ne le feront pas. Mais par contre, beaucoup peuvent venir de temps en temps découvrir ces territoires ruraux. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'offre, elle ne se fait pas que par les hôtels, mais aussi, effectivement, et ça c'est pas nouveau, par les gîtes. La nouveauté, c'est que les plateformes numériques comme Airbnb ou dans un autre domaine comme Blablacar viennent bouleverser les représentations et nous apprendre, nous, élus ruraux, que finalement, il y a beaucoup de nos habitants qui ont choisi ce mode-là pour accueillir des personnes.
Cédric Zabot, le directeur de l'Association des maires ruraux de France, qui était l'invité du grand journal de Mathieu Béliard, ce soir sur Europe 1. Les jeunes de 16 ans qui effectueront leur service national universel devront porter un uniforme. Mais quel uniforme ? Un concours vient d'être lancé et ce sont les jeunes eux-mêmes qui vont le dessiner, cet uniforme, en tout cas le haut de la tenue, un t-shirt ou bien un polo. Virginie Salmen, vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1 et vous avez accompagné Virginie aujourd'hui, le secrétaire d'État chargé de la jeunesse qui a lancé ce concours dans un lycée d'Hermont, dans le Val d'Oise. Les jeunes, comment ont-ils réagi, Virginie ?
Pour la plupart, ces élèves n'avaient jamais entendu parler du service national universel. Mais quand Gabriel Attal leur a expliqué que 800 000 jeunes chaque année allaient porter cet uniforme, l'enthousiasme est monté petit à petit.
Si demain, un jeune qui a fait son service national, dans sa ville, il se passe un accident grave, une catastrophe naturelle importante, bah l'idée c'est que tous les jeunes qui auront fait leur service national, ils puissent remettre le polo qu'ils avaient au moment du service national, descendre dans la rue, se reconnaître mutuellement parce qu'ils auront tous été formés sur la réaction à avoir, et puis prendre en charge des personnes qui ont été sinistrées. Donc la tenue, elle va être très importante.
Alice, élève de seconde mode et design, qui ne connaissait pas le service national universel 5 minutes plus tôt, a tout de suite eu plein d'idées.
C'est très beau, des uniformes anglais ou des uniformes français, c'est classe, c'est bleu marine. Mais là, comme c'est des jeunes, on veut que ça change, quoi. On veut rajouter un petit truc, une petite étincelle. On peut prendre un pantalon un peu oversize beige et avec un beau t-shirt, ça le fait vraiment. Vraiment, ça change.
Pour les couleurs de l'uniforme, il va falloir s'accorder. Quelle est la couleur qui symbolise la liberté ou l'égalité ?
Du bleu, flashy, voilà. Moi, je veux pas que ça soit terne.
Moi, ça serait du gris.
Moi, ça serait pas du tout comme lui, ça serait en couleur pour qu'on nous voit de loin et qu'on sache que c'est nous, quoi.
Il y a un autre point à trancher. Est-ce que ce sera un uniforme fille, un uniforme garçon ou des vêtements unisexes ? Voilà ce qu'ils en pensent.
Un pour les filles, un pour les garçons.
Que ça soit assorti aussi.
Oui, assorti.
Ce serait super.
Moi, je me dis qu'on est égalité, donc les deux sexes, avec le même polo, avec les mêmes habits, il n'y a pas de différence.
Voilà, donc ces jeunes ont un mois pour dessiner la tenue qui sera portée chaque année par les jeunes appelés de 16 ans.
Merci beaucoup Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Le foot, veillée d'armes à Lyon avant le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Match que vous pourrez suivre demain en direct et en intégralité dès 20h sur Europe 1. Alors Cyril de la Morinerie, dites-nous tout avant de partir à Lyon. Barcelone, c'est un monstre, on pourrait donner les Lyonnais perdants, pourtant ils y croient. Hein.
Oui, les Lyonnais croient réellement en leur chance, alors cela peut paraître surprenant car en face ce sera la bête noire, le Barça que Lyon n'a jamais battu. Mais l'OL a réalisé deux matchs référence. Le premier, c'est en début de saison, en septembre dernier. À la surprise générale, l'OL s'impose sur le terrain du champion d'Angleterre, Manchester City, le club entraîné par Pep Guardiola. Deuxième exploit, c'était il y a 15 jours, Lyon bat le PSG après avoir été mené au score. L'ancienne gloire Juninho estime d'ailleurs dans le journal Le Progrès que les Lyonnais sont capables de battre le Barça, à condition, dit le Brésilien, de se mettre au niveau mental et physique de ce genre de match. Le problème, c'est que le champion du monde Nabil Fekir, le maître à jouer de Lyon, sera absent alors que le quintuple ballon d'or Lionel Messi, auteur de 28 buts en 26 matchs, sera présent. L'Argentin, la légende argentine du Barça, sera évidemment la principale menace demain soir.
Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie qui sera au Groupama Stadium pour vous faire vivre ce match en direct en intégralité sur Europe 1 dès 20h. Et puis une mauvaise nouvelle du côté de Saint-Etienne. Cette fois, l'attaquant stéphanois Kevin Monet-Paquet, blessé hier lors du match contre le PSG, souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et sa saison est donc terminée. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Demain, Elena, on ouvre une parenthèse dans notre séquence printanière.
Exactement Isabelle, ce mardi sera le jour le moins sympa de la semaine, c'est vrai, avec une tentative de perturbation vite avortée. Hein. L'anticyclone qui se décale vers les Balkans va reprendre du poil de la bête et regonfler ses pressions sur l'ouest de telle façon que la pluie qui est arrivée aujourd'hui sur la Bretagne arrosera de plus en plus faiblement les régions allant de la Gironde au Loiret jusqu'aux Ardennes demain matin. Puis, la perturbation, elle va mourir sur place. Il ne restera que des nuages demain après-midi du Poitou-Charentes à l'Alsace. Des éclaircies timides sur le nord de la Loire et le sud-ouest. Très belle journée en revanche sur les Pyrénées et le sud-est, en dehors des entrées maritimes qui stagneront sur le golfe du Lion ou encore la côte d'Azur. Les températures en légère baisse après la douceur remarquable de ces derniers jours. Quelques gelées sur l'est demain matin, puis 9 degrés à Langres, 11 à Lorient ainsi qu'à Nantes. 12 à Caen, à Quimper, Lille et Paris, 14 à Clermont-Ferrand et Lyon, 15 à Bordeaux, Toulouse et Marseille, 16 degrés la maximale pour Biarritz, Nîmes et Avignon. Demain soir, on ferme la parenthèse nuageuse. Revoilà le soleil et des températures de plus en plus printanières dès mercredi. Quelques records en vue, attention pour la fin de semaine.
La météo signée, Elena Morna sur Europe 1.